Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de me donner l'occasion d'intervenir à la bibliothèque. Alors, un mot rapide sur mon parcours. Donc, je dirige la bibliothèque historique de la ville de Paris depuis 3 ans. Je suis arrivé en tout début de l'année 2023. Donc, j'ai une formation d'historien, je suis archiviste paléographe, c'est-à-dire que j'ai fait l'école des chartes à la fin des années 80. Et ensuite, j'ai fait l'école des conservateurs de bibliothèque quelques années plus tard, après mon service militaire. Et puis ensuite, j'ai travaillé 12 ans à la Bibliothèque nationale, 13 ou 14 années au ministère de la Culture. Avant de diriger la bibliothèque historique, j'ai dirigé pendant 6 années le département des sciences humaines de la Bibliothèque nationale, qui conserve les collections d'histoire de l'établissement et aussi les collections de philosophie, de géographie et d'autres collections sur des disciplines plus récentes comme la psychologie ou la sociologie. Voilà, mais moi je suis vraiment historien et plutôt médiéviste de formation. Donc j'ai pris la direction de la bibliothèque historique il y a 3 années. Et comme vous m'avez proposé de faire une intervention ce soir et que j'étais à la bibliothèque des Amis de l'Instruction, j'ai choisi de vous parler de la bibliothèque historique sous un angle plus particulier qui est celui de l'enseignement qu'une bibliothèque peut dispenser ou pas, puisque c'est une mission éventuelle, une mission parmi d'autres, qui n'est pas la plus facile à assurer, qui n'est pas toujours évidente. Et voilà, je me propose ce soir d'essayer de vous parler de la façon dont la bibliothèque historique, depuis sa fondation au milieu du XVIIIe siècle, a essayé, avec des bonheurs divers à différentes époques, d'enseigner aux Parisiens l'histoire de Paris, l'histoire de ses collections et de faire œuvre éducative. La problématique, c'est que l'enseignement, la diffusion des collections n'est qu'une mission parmi d'autres des bibliothèques. Il y a des missions de conservation, les missions d'enrichissement des collections. Parmi ces missions, l'enseignement n'est pas la plus évidente. Elle peut d'ailleurs même être parfois contestée aujourd'hui pour différentes raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Et ça me donnera aussi l'occasion de vous parler de la bibliothèque historique sur les 2 siècles et demi, bientôt 3 siècles, enfin pas encore, de son existence. La bibliothèque historique a été fondée au milieu du XVIIIe siècle, à une époque où les institutions parisiennes, la municipalité parisienne, se préoccupent de son histoire, qui est déjà une histoire ancienne. Il y a tout un ensemble de notables parisiens qui se préoccupent de commencer à réunir des collections autour de l'histoire de Paris. Le mouvement se fait essentiellement dans les années 1730, sous la direction du prévôt des marchands de l'époque, qui est Michel-Étienne Turgot, qui est magistrat au Parlement de Paris. Turgot est à l'origine d'un certain nombre d'initiatives pour formaliser et structurer une histoire de Paris, qui était à l'époque encore réelle mais désorganisée. Parmi ces initiatives, on peut mentionner la création d'une charge d'historiographe de la ville, donc d'un fonctionnaire en quelque sorte, c'est pas encore vraiment un fonctionnaire, mais en tout cas d'un officier qui a pour charge de collecter la documentation autour de l'histoire parisienne, la création du fameux plan de Turgot, qui est réalisé entre 1734 et 1739, par un dessinateur qui s'appelle Louis Brotet, qui parcourt Paris avec son équipe pour dessiner les bâtiments et proposer le célèbre plan qui va être ensuite largement diffusé un peu à titre de propagande au travers de l'Europe entière. Il y a même des exemplaires qui sont envoyés en Chine. Et puis les magistrats parisiens commencent à réunir des documents, manuscrits, livres imprimés, estampes, sur l'histoire de Paris. Et parmi ceux-ci se distingue la figure d'Antoine Moriot, qui exerce la charge de procureur du roi et de la ville, une sorte de secrétaire général de l'administration parisienne. Donc c'est un des plus proches collaborateurs de Michel-Étienne Turgot. Ce magistrat réunit des collections parisiennes avec d'autres magistrats, et ces collections sont ensuite installées dans le local que loue Antoine Moriot, qui est en fait l'hôtel de Lamoignon, où se trouve aujourd'hui installée la bibliothèque. Il devient locataire de cet hôtel en 1739. Il loue d'abord une partie de l'hôtel. Ensuite, une dizaine d'années plus tard, il devient le locataire de tout l'hôtel, puisque la famille des Lamoignon quitte l'hôtel, Guillaume de Lamoignon de Blanc-Mesnil, devenant chancelier de France, lui s'installe à l'hôtel de la chancellerie de l'actuelle place Vendôme, et les Lamoignon louent la totalité de leur hôtel à partir des années 1750, et donc la bibliothèque s'installe dans l'hôtel. Et donc aux archives de Paris aujourd'hui, on a le plan de la bibliothèque qui est installée au premier, au deuxième étage de l'hôtel. C'est une bibliothèque fait à environ une vingtaine de milliers de livres, et puis il y a quelques centaines de manuscrits et des collections de plans. Bon, c'est déjà une bibliothèque assez belle. Antoine Morio décède en 1759, il n'a pas eu d'enfant, il souhaite léguer à la ville de Paris sa collection, qui est une collection personnelle, à charge pour la ville de l'ouvrir au public. Et donc c'est ainsi que cette bibliothèque, au début une bibliothèque de travail, une bibliothèque plutôt personnelle, devient la première bibliothèque publique de la ville de Paris. Alors c'est pas la première bibliothèque publique ouverte à Paris, puisque il y a des bibliothèques qui existent déjà dans Paris qui sont ouvertes au public. La bibliothèque du roi est ouverte 2 jours par semaine au public. Et puis il y a la bibliothèque Mazarine qui a été fondée dans les années 1640 par Mazarin, ouverte dès ces années-là au public, et puis qui, après une histoire un peu mouvementée, dans les années 1680, ouverte définitivement au public parisien. Donc une bibliothèque plus ancienne, mais en tout cas, cette bibliothèque est la première bibliothèque vraiment de la ville, de la municipalité parisienne. Donc elle est ouverte en grande pompe au public en 1763. Le prévôt des marchands et le corps municipal se déplacent rue pavée pour, en grande pompe, inaugurer la bibliothèque. Deux images qui vous donnent une idée de la physionomie de l'hôtel de Lamoignon au milieu du XVIIe siècle. Donc c'est un hôtel qui a été construit d'après des plans de Philibert Delorme à la fin du XVIe siècle. Il a été construit sur une période assez longue, puisque les travaux ont commencé à peu près vers 1560 et se sont achevés seulement vers 1640. Donc longue période de construction. Bon, et cette bibliothèque, cet hôtel est dans le Marais, qui est encore une zone extrêmement rurale avec beaucoup de jardins. Au début, il est environné de jardins. Le bâtiment est d'ailleurs plus célèbre pendant longtemps pour ses jardins que pour le bâtiment lui-même. Et puis, le deuxième document, c'est justement un extrait du plan de Turgot. Donc là, on est au milieu du XVIIIe siècle, dans les années fin des années 1730. Et alors là, on voit qu'il y a eu une densification importante du Marais. Beaucoup d'hôtels qui, entre le milieu du XVIIe et le milieu du XVIIIe, qui se sont construits. Ça s'est beaucoup urbanisé. L'hôtel se trouve ici. On voit que les jardins vont jusqu'à la rue de la Culture Sainte-Catherine, qui est l'actuelle rue de Sévigné. Et puis on voit qu'autour, il y a quand même encore de vastes jardins avec d'autres hôtels particuliers. Donc la bibliothèque s'ouvre au public en 1763, se développe assez rapidement, mais bon, de manière paisible. Et à ce moment-là, il n'est pas question d'enseigner quoi que ce soit. En revanche, il y a une volonté de diffusion et de partage des collections et du savoir contenu dans les collections, puisque d'une part, il y a une ouverture à tous les Parisiens qui est proposée 2 demi-journées par semaine. Bon, c'est encore modeste, mais beaucoup de bibliothèques publiques ont un tel fonctionnement à l'époque. Il y a également un prêt de documents qui est mis en place. Le prêt est assez encadré. Tout le monde n'a pas la possibilité d'emprunter des documents. C'est un prêt sélectif, mais il y a un registre de prêts qui est mis en place assez rapidement et qu'on a conservé. Il n'est pas à la bibliothèque historique, il est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal. Alors tout simplement pourquoi? Parce que, j'en dirai un mot juste après, l'un des premiers bibliothécaires de la bibliothèque de la ville de Paris est devenu plus tard bibliothécaire de l'Arsenal et il a emporté ce registre de prêts. Donc on connaît sur les années 1760-1770 les prêts qui sont faits sur autorisation à la bibliothèque. Des savants, des magistrats peuvent emporter chez eux des documents. Les dames ont également la possibilité d'emprunter des documents à cette époque. Bon, c'est un volume de prêts qui est évidemment réduit, ce sont quelques prêts par semaine, mais on a gardé trace de ces documents. Alors la bibliothèque va connaître une histoire ensuite un petit peu mouvementée. Elle va d'abord déménager assez rapidement, puisqu'au début des années 1770, les magistrats parisiens vont trouver que le loyer que les Lamoignons leur font payer est trop élevé, et vont louer des locaux dans la maison professe des jésuites, alors qu'il n'est plus maison des jésuites puisque les jésuites ont été expulsés du royaume de France en 1762. Leurs locaux sont occupés par une autre congrégation religieuse, les Génovéfains, et donc ce sont les locaux de l'actuel lycée Charlemagne. Donc la bibliothèque s'installe dans ce qui est actuellement le lycée Charlemagne, et plus particulièrement dans le dernier étage. La bibliothèque s'installe là. Malheureusement pour elle, arrive la Révolution française, et le bibliothécaire dont je parlais, qui s'appelle Hubert-Pascal Ameillon, est nommé bibliothécaire d'une institution qui vient d'être créée, qui est l'Institut de France. L'Institut est créé en 1795. Ce bibliothécaire-là, personnage assez ambitieux et assez intrigant, devient bibliothécaire de l'Institut. L'Institut n'a pas de bibliothèque. Et donc, Hubert-Pascal Ameillon trouve que c'est une très bonne idée de confisquer la bibliothèque de la ville de Paris pour former la bibliothèque de cet Institut de France qui vient d'être créé. Et donc, un décret du directoire est pris en 1797 pour confisquer la bibliothèque parisienne qui devient le noyau de l'actuelle bibliothèque de l'Institut. Et donc, les quelques 30 000 documents qui constituent à l'époque la bibliothèque de la ville de Paris sont aujourd'hui à la bibliothèque de l'Institut et constituent le noyau du fonds ancien de cette bibliothèque. Et puis, ce bibliothécaire qui espérait avoir encore davantage de responsabilités, finalement, il n'obtient pas ce qu'il souhaitait. Il est nommé bibliothécaire de l'Arsenal, ce qui est quand même un beau poste, mais qui ne lui convient pas tout à fait. Et c'est dans ces circonstances qu'il embarque avec lui le registre de prêt de la bibliothèque. Il décède à la fin du Premier Empire. Voilà, donc sur cette première période, on peut dire que les bases de la bibliothèque ont été posées. Il n'y a pas encore d'enseignement, il y a une volonté de diffusion. Il y a quand même un historiographe de la ville de Paris qui est là pour produire des documents autour de l'histoire parisienne, mais l'institution est encore balbutiante et en tout cas n'a pas de rôle actif auprès de ses publics. Ça reste encore une bibliothèque de taille modeste. Le 19e siècle arrive, quand la question de la reconstitution d'une bibliothèque parisienne se pose très vite. Le premier préfet de la Seine, qui est Frochot, qui prend ses fonctions à la création des préfets, demande aux équipes de la préfecture naissante de reconstituer une bibliothèque à partir des collections des dépôts littéraires qui existent encore. Mais alors, les dépôts littéraires, là on est dans les années 1800, les dépôts littéraires, ils ont déjà été beaucoup pillés par beaucoup d'institutions, la Bibliothèque nationale, beaucoup de bibliothèques, donc ils sont quand même moins riches qu'ils n'étaient au moment des confiscations révolutionnaires. Donc il y a une bibliothèque qui est reconstituée, mais cette bibliothèque, donc elle va progresser sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet notamment, qui va accroître de manière assez considérable les crédits, et puis sous le Second Empire, sous le Second Empire où il y a une volonté du préfet Haussmann et du conseil municipal de Paris de développer l'image de Paris. La population parisienne a triplé en l'espace de 75 ans. Elle est passée d'un demi-million d'habitants sous la Révolution française à plus d'un million et demi d'habitants. La ville est riche, donc il faut à nouveau que la bibliothèque de la ville soit à la hauteur des ambitions et du prestige de la capitale. La bibliothèque atteint à ce moment-là à peu près le chiffre d'une centaine de milliers de documents. Malheureusement, arrive la Commune. Et donc l'incendie de l'hôtel de ville le 24 mai 1871. Or, cette nouvelle bibliothèque a été installée à partir des années 1840 à l'hôtel de ville. Donc elle disparaît entièrement en cendres dans cet incendie. Quelques mois avant ce dramatique événement, un bibliothécaire vient d'être nommé à la direction de la bibliothèque de la ville de Paris, qui s'appelle Jules Cousin, qui était lui également bibliothécaire de l'Arsenal précédemment. Jules Cousin est un passionné d'histoire parisienne. Il propose assez vite de faire don de sa collection personnelle pour reconstituer une nouvelle bibliothèque parisienne. Donc c'est le noyau de la collection actuelle de la bibliothèque qui est mis en place dès la fin de l'année 1871. La bibliothèque peut rouvrir au public 3 années plus tard, en 1874, alors avec une collection qui est encore modeste puisque elle n'a à nouveau qu'une trentaine de milliers de volumes. Elle va ouvrir dans l'hôtel Carnavalet, puisque la ville a acquis sous le Second Empire l'hôtel Carnavalet pour y construire un musée d'histoire de Paris. L'acquisition s'est faite, je crois, vers 1866-1867. Donc la bibliothèque ouvre dans ce qui est à l'époque le musée historique, et les deux institutions cohabitent, ont la même direction. Et ce sont encore deux jeunes institutions qui ont des collections encore relativement pauvres. Donc cette bibliothèque va s'installer dans l'hôtel Carnavalet, va se développer sur les 3 décennies suivantes par des acquisitions, des moyens assez importants sont consacrés, des dons également ont lieu. D'abord, la bibliothèque bénéficie du don du marquis Alfred de Liéville, qui est un collectionneur qui se passionne pour la Révolution française, qui a collectionné de nombreux manuscrits, des livres sur la Révolution et d'autres dons encore. La bibliothèque donc s'enrichit et va s'installer dans les toutes dernières années du 19e siècle à l'hôtel Le Pelletier, qui est rue de Sévigné, qui est aujourd'hui une partie de l'hôtel Carnavalet. Donc à l'époque, la ville acquiert l'hôtel Le Pelletier et la bibliothèque va s'installer dans cet hôtel. Donc on est là à une époque d'ambition importante, la volonté de diffuser l'histoire parisienne est beaucoup plus présente qu'au XVIIIe siècle, puisqu'un certain nombre d'initiatives vont être prises au tournant du XIXe et du XXe siècle. Les bibliothèques parisiennes à l'époque se sont un peu développées, il y a des bibliothèques qui ont été créées dans les mairies d'arrondissement, et puis il y a quelques établissements comme la bibliothèque Fornet, la bibliothèque historique, il y a une bibliothèque administrative qui a également été créée au début de la Troisième République, mais les collections demeurent évidemment encore assez modestes, en tout cas ne sont pas comparables à ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est quelques millions de volumes quand même, ce sont déjà des beaux ensembles, et le conseil municipal manifeste un certain nombre d'intentions pour développer la connaissance de ces collections. Les initiatives qui sont prises, c'est d'abord une ouverture plus importante au public, qui se fait de manière progressive, donc on va d'une ouverture qui est d'abord seulement quelques demi-journées par semaine à une ouverture sur l'ensemble de la semaine. Les bibliothèques sont ouvertes de 9h du matin à 5h du soir. Cette volonté d'ouverture donc il se manifeste dans quelques rapports. Alors, je souhaitais vous lire quelques extraits de 2 rapports. Le premier, qui est un rapport de 1897, qui est un rapport fait par le président du conseil municipal de Paris, qui est un rapport fait donc devant le conseil de Paris, décide que des jours d'ouverture seront réservés aux écoles, au patronage, aux sociétés d'instruction populaire, afin d'élargir la connaissance des collections conservées par la bibliothèque et le musée historique de Paris. Il indique également ces jours-là, des causeries seront organisées autour des collections et rien ne vaut l'explication orale pour un public qui vient là pour apprendre. Quelques années plus tard, un autre rapport, donc là on est là en 1908, c'est un rapport qui est fait sur la réorganisation de la bibliothèque et du service des travaux historiques. L'auteur du rapport, qui est Marcel Poète, qui est le directeur qui vient d'être nommé à la bibliothèque historique, écrit « La conception de la bibliothèque Tour d'Ivoire ne doit plus être de mise, qu'il s'agisse du dépôt lui-même ou du personnel. Il faut qu'une bibliothèque soit un rouage de la vie publique. Étant le bien de tous, elle doit être aménagée, intellectuellement, aussi bien que matériellement, pour servir à tous. La bibliothèque n'est pas faite pour le bibliothécaire est fait pour le public et doit assurer le rendement qui soit le plus avantageux pour tous. » Donc il y a un certain nombre d'initiatives qui sont proposées dans un plan de réorganisation. Et donc il propose une série d'initiatives. Donc la première est la création d'un office de bibliographie parisienne qui rassemblerait toute la documentation existant sur l'histoire de Paris. La deuxième initiative est la création d'un bulletin de la bibliothèque et des travaux historiques afin de faire partager la connaissance des travaux historiques qui ont été repérés ou créés. Il y a ensuite le souhait de mettre en place 2 enseignements distincts. Donc il y a d'abord un enseignement d'histoire de Paris, plutôt à destination savante, qui est créé. Il écrit dans ce rapport de 1908 « Cette collaboration trouverait son point d'attache dans l'enseignement d'histoire de Paris, dont le préfet veut bien me charger à l'hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau depuis l'année 1904. Le cours public que je fais durant le semestre d'hiver est le seul existant sur l'histoire de Paris. Il y a tout intérêt à développer cet enseignement en adjoignant au cours public une conférence dont les membres se recruteraient parmi les jeunes gens déjà pourvus de l'éducation spéciale requise et qui serait consacrée à la préparation d'œuvres destinées à prendre place dans l'histoire générale de Paris, comme la topographie, ou bien au sein du répertoire des sources de l'histoire de Paris antérieure à la Révolution. Je continuerai mon cours public durant le semestre d'hiver et je dirigerai les travaux de la conférence pendant toute l'année. Donc là, c'est vraiment un enseignement qui se veut d'un certain niveau, appuyé sur des étudiants qui ont eux-mêmes un bagage d'historien, en tout cas qui ont un certain niveau. Puis il propose également de mettre en place un autre enseignement, alors davantage à destination du grand public. Il écrit « Il faut faire connaître au plus grand nombre de personnes possible le chemin de la bibliothèque. Plusieurs moyens peuvent être facilement employés à cet effet. Le premier consiste à organiser 3 ou 4 fois par an des conférences dont chacune serait faite sur un point particulier d'histoire de Paris, à titre gracieux, par un membre de la commission des travaux historiques et celle de la Révolution ou par quelque autre historien. Ce serait en quelque sorte un enseignement épisodique à côté de l'enseignement régulier dont je viens de parler. Un autre moyen est d'organiser chaque année, dans la salle de cours, des expositions de pièces curieuses ou précieuses. Ces expositions seraient pour ainsi dire le prolongement de l'action de ce cours. Elle permettrait de faire visiter sous les yeux des visiteurs toutes les genres de pièces possibles et de documents que possède la bibliothèque. Donc là, on est sur un enseignement un peu plus grand public, avec un volume horaire réduit, et puis qui s'appuierait sur des expositions, la présentation de pièces, afin peut-être d'avoir un enseignement moins aride. D'autres initiatives sont envisagées, et notamment ils souhaitent travailler en coordination avec les sociétés historiques qui sont à l'époque assez florissantes dans Paris. Et puis, ils proposent un élargissement des horaires d'ouverture. Alors avec là, une ambition qui ne sera jamais atteinte, puisqu'il va même jusqu'à écrire « En attendant que l'application au dépôt d'un mode d'éclairage permette d'ouvrir la bibliothèque aux chercheurs de 9h du matin à 10h du soir, sans interruption, on pourrait revenir au projet de 1897 présenté par M. Pierre Baudin, au nom de la 4e commission, c'est-à-dire faire une ouverture de 9h à 5h. Donc il va même envisager une ouverture de 9h du matin jusqu'à 10h non-stop, bon, ce qui n'a jamais été atteint comme objectif, mais ça montre bien un niveau d'ambition particulièrement élevé et remarquable, même s'il était certainement irréaliste. On est là dans une époque où ces enseignements vont se mettre en place et subsister pendant à peu près une petite quinzaine d'années. La Première Guerre mondiale va porter un coup à cette structure. Elle va contribuer à désorganiser la bibliothèque, désorganiser ses personnels, puisque un certain nombre de personnels ne reviendront pas de la guerre, et qu'après la guerre, le personnel de la bibliothèque est moins spécialisé. Notamment, il y a beaucoup de mutilés de guerre qui sont employés, et qui permettent plus difficilement de retrouver le niveau dynamisme qui était à l'œuvre dans les années 1890, 1900 et 1910. Donc là, on a un peu un âge d'or qui se termine. La bibliothèque, à l'époque, est à l'hôtel Le Pelletier, à quelques pas d'ici, à quelques blocs d'immeubles. Alors, vous avez là une image de l'hôtel Carnavalet, à droite, l'escalier de l'hôtel Le Pelletier, et au centre, Marcel Poète, le directeur de la bibliothèque, dont on voit sur cette image qu'il faisait aussi du saute-mouton à ses heures perdues. Il a dirigé la bibliothèque pendant à peu près une petite trentaine d'années, jusqu'à la fin des années 20 à peu près. On connaît une période plus difficile dans l'entre-deux-guerres, à la fois parce qu'elle se retrouve à l'étroit dans les locaux de la rue Le Pelletier, et puis parce que, comme je vous le disais, elle a été désorganisée du fait de la Première Guerre mondiale. En 1928, la ville, consciente des insuffisances des locaux dévolus au musée historique et à la bibliothèque historique à l'hôtel Carnavalet, acquiert l'hôtel de Lamoignon, qui avait été vendu par les Lamoignon au début du règne de Louis XVI et qui s'était transformé au XIXe siècle en immeuble de rapport. Alors je vous ai montré, c'est toujours assez amusant à voir, quelques images de l'hôtel à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et puis ce sont aussi des images du Marais à une époque pas si lointaine. Il y avait des poules dans le jardin, puisque les magnifiques jardins des Valois-Angoulême vantés au XVIe et au XVIIe siècle, ils avaient été progressivement lotis au XIXe et par tous les immeubles qui sont aujourd'hui le long de la rue de Sévigné, dans la partie qui se rapproche de l'hôtel de la rue des Francs-Bourgeois. Et puis à l'arrière, il y avait des locataires souvent peu fortunés qui résidaient et puis qui se livraient soit à des activités artisanales, commerçantes. Il y avait un marchand d'engrais aussi qui a été, dans les années 40-50, il y a un marchand d'engrais qui était installé dans l'hôtel. Alors il avait des clients qui venaient de Beauce, de Bride, assez loin. Lui, il a beaucoup regretté quand il a été éjecté par la ville de Paris dans les années 30 que ça s'est fait, parce qu'il trouvait que c'était prestigieux vis-à-vis de ses clients. Il venait à Paris, puis il voyait un marchand d'engrais dans un bel hôtel quand même. Là, on lui a dit non, c'est plus possible. Donc la ville a acheté l'hôtel en 1928 avec la volonté d'abord d'y installer une partie du musée Carnavalet. Et puis le projet définitif d'installation de la bibliothèque, lui, s'est décidé en 1941. La direction de la bibliothèque et la préfecture de la Seine ont décidé d'installer la bibliothèque. Un long projet a été engagé, avec d'abord une phase de réflexion dans les années 40. Bon, le contexte de la guerre, évidemment, n'était pas propice à des dépenses. Ensuite, début des années 50, la restauration de l'hôtel a été engagée. Ça partait de loin, puisque le bâtiment était vraiment dans un très mauvais état. Il y avait aussi tout un étage qui avait été construit le long de la rue des Francs-Bourgeois au 19e pour gagner de la place et loger davantage de monde, qui a été supprimé à cette époque pour revenir à un état du bâtiment d'origine. Après la construction de la partie moderne qui s'est faite un peu plus tard, au milieu des années 60, donc les communs avec toutes ces cabanes à poules ont été rasés et donc la partie droite de la bibliothèque a été construite dans les années 60. Et la bibliothèque a pu ouvrir au public en janvier 1969. Donc là, vous avez l'une des photographies de l'inauguration. Et alors, on aperçoit André Malraux, le deuxième à gauche, lorsqu'il inaugure la bibliothèque. On est le 30 janvier 1969. La bibliothèque ouvre dans des conditions bien modernisées, avec des magasins agrandis. 3000 m² supplémentaires se sont ajoutés à l'hôtel particulier. Vous avez là un plan en coupe du bâtiment, avec les magasins qui ont été construits en sous-sol et puis les différents espaces qui ont été rénovés. Quelques photos des magasins dans leur état d'époque, donc avec la lumière, des rayonnages métalliques. Donc à l'époque, on est vraiment à la pointe du progrès. Et dans le document de présentation de la bibliothèque qui est réalisé à ce moment-là, l'institution se veut une institution résolument moderne. Toutefois, la fonction d'enseignement est absente, ou en tout cas très peu présente, puisque c'est une bibliothèque qui se veut une bibliothèque à destination des chercheurs. C'est une bibliothèque qui veut proposer les matériaux pour la recherche, donc une communication rapide et commode des manuscrits, des plans, des imprimés, des photographies. Mais il n'est plus question d'enseignement, il est question de réalisation de documents scientifiques avec l'activité du service des travaux historiques de la ville qui demeure étroitement lié à la bibliothèque. Il y a également des activités d'exposition à destination du grand public qui sont rapidement mises en place. Il y a une salle d'exposition qui est ouverte au premier étage de la bibliothèque qui va fonctionner jusqu'au début des années 90. Mais l'enseignement est à peu près totalement absent. Il y a quelques services qui sont proposés aux curieux, mais qui ne seraient pas des chercheurs. Il y a notamment des facsimilés de plans anciens, des albums de photographies, de copies, de reproductions de photographies qui sont mis en libre accès à l'accueil de la bibliothèque, puisque la salle de recherche et la salle de lecture est accessible uniquement aux enseignants, aux chercheurs professionnels, aux généalogistes, mais enfin vraiment aux personnes qui ont des recherches avancées et une certaine connaissance de l'environnement scientifique parisien. Alors voilà des images plus récentes de la bibliothèque, donc qui ont été prises dans les années 2010, et qui sont dans la continuité de l'équipement qui est créé à l'époque dans les années 60, puisque dans les années 2010, certaines parties de la bibliothèque ont été rénovées. Je dis bien certaines parties, car les parties, disons, visibles par le public ont été rénovées, les parties invisibles l'étant malheureusement beaucoup moins. Et donc j'en viens un peu à la situation actuelle et à la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, puisque on s'aperçoit quand même d'une perte de connaissances, d'une perte de repères des visiteurs que reçoit la bibliothèque vis-à-vis de l'histoire parisienne et de l'histoire en général. La bibliothèque est assez fortement fréquentée par des étudiants, bon, toujours par des chercheurs, mais beaucoup par des étudiants, beaucoup par des touristes, puisque le Marais est devenu un quartier extrêmement touristique, avec des touristes qui viennent du monde entier, d'Amérique, d'Asie, des cinq continents. Et puis les écoles, les enfants, quand ils viennent à la bibliothèque, on en reçoit de temps à autre des classes, on s'aperçoit que la connaissance de l'histoire parisienne est aujourd'hui très lacunaire, très, très fragmentaire. La question de l'enseignement se pose, mais dans des conditions différentes de ce qu'elle pouvait être il y a un siècle, à la fois parce que les outils ne sont plus les mêmes, et puis les attentes ne sont pas non plus celles qu'elles pouvaient être au début du XXe siècle. On a différents moyens et différentes questions qui se posent à nous. Il y a bien sûr les outils numériques qui permettent de présenter des contenus structurés, de les présenter à distance. Donc la bibliothèque dispose de plusieurs outils. Vous avez le portail de la bibliothèque qui permet de présenter des articles et qui donne accès au catalogue de la bibliothèque, qui est un peu l'outil de base, qui est en haut à gauche de cette diapositive. Vous avez un deuxième outil qui est en bas à gauche, qui est ce qu'on appelle un carnet de recherche ou un blog, qui lui permet de présenter des articles plus riches, plus importants, sur les collections ou bien sur l'histoire de Paris, donc qui s'adresse davantage à des étudiants plus avancés, en tout cas des curieux qui sont prêts à consacrer plus de temps au sujet de recherche. Il y a des ressources qui sont aussi présentes dans d'autres sites. En haut à droite, je vous ai mis la page d'accueil du portail proposé par l'agence Roger Viollet, qui est un partenaire de la ville de Paris, qui diffuse une grande partie des collections de photographies de la ville de Paris, puisque Hélène Roger Viollet avait fait don à la ville dans les années 80 de ses collections. Donc aujourd'hui, les collections demeurent indépendantes, mais sont gérées par la bibliothèque historique et sont valorisées à travers ce site. Et puis vous avez aussi des collections qui sont notamment beaucoup de revues d'histoire locale qui sont diffusées à travers le portail de la Bibliothèque nationale Gallica qui a regroupé un très grand nombre de revues d'histoire, de revues de société savante, de revues d'histoire locale de la France entière. Donc dans le chapitre sur l'île de France, on a les revues parisiennes et aussi les revues des départements de la Petite et de la Grande Couronne qui ont succédé à la réorganisation territoriale intervenue dans les années 60 et qui a cassé les trois départements parisiens qui existaient précédemment. Donc ça, ce sont tous les outils numériques qui constituent un premier ensemble. Un deuxième effort qu'on essaie de mener en ce moment, depuis 2-3 ans, c'est de proposer des ateliers d'histoire parisienne aux enfants. Donc on a commencé à constituer un petit catalogue d'ateliers qui s'adresse pour l'instant essentiellement aux enfants des écoles élémentaires, soit aux enfants des collèges, sur certains aspects de l'histoire parisienne. Donc là, je vous ai mis deux de ces ateliers. Il y en a, pour l'instant, il n'y en a qu'une petite demi-douzaine. L'un, c'est sur l'eau à Paris, où on essaie de leur montrer toutes les avanies, tous les problèmes que les Parisiens ont pu rencontrer dans l'accès à une ressource qui est aujourd'hui évidente, qui est l'eau depuis le Moyen-Âge jusqu'à... au XXe siècle, plus ou moins, voire jusqu'à aujourd'hui, à travers tout un ensemble d'éléments, soit relativement connus, soit oubliés, comme les pompes qui ont été créées au XVIIe, au XVIIIe siècle, l'effort extraordinaire de constitution d'un réseau d'égouts et d'assainissement au XIXe siècle, à partir d'Haussmann, etc. Puis on a un autre atelier aussi sur les moyens de locomotion à Paris. Il y a également un atelier qu'on a créé, cette fois-ci, sur les moyens d'information, puisqu'on... Le temps passant, il y a de plus en plus d'enfants qui ne savent plus très bien à quoi ressemble un journal, une carte postale, ou qui n'ont jamais vu de photographie en noir et blanc, parce que pour eux, les photographies, ça se fait avec les téléphones, c'est numérique, c'est en couleur, ils n'ont jamais vu de diapositives, des choses qui apparaissaient encore évidentes il y a 30 ou 40 ans. Il y a des petits-enfants sont considérés un peu comme vraiment presque comme des objets d'archéologie, alors que c'était notre quotidien il n'y a pas si longtemps. Donc on a ces ateliers. Après, un autre moyen, ce sont aussi les conférences. On essaie de proposer des conférences faites par des historiens ou par des archéologues sur des aspects de l'histoire de Paris. Alors le thème là qu'on abordait en ces derniers mois, c'était un peu l'histoire du cimetière des Innocents et l'histoire des cimetières parisiens de manière générale. Donc on aura la semaine prochaine une conférence sur la création des grands cimetières parisiens au début du 19e siècle, le Père Lachaise, Montmartre et Montparnasse. Et puis ensuite une conférence début décembre sur le Père Lachaise comme objet politique. On a parlé précédemment d'autres aspects des cimetières et en particulier du cimetière des Innocents, aujourd'hui oublié, mais qui a quand même vu plus d'1 million de Parisiens être enterrés sur un certain nombre de siècles. Donc voilà, les conférences, ça marche assez bien, puis ça permet de partager la connaissance sur un mode assez ouvert, assez convivial. Alors ensuite, on a recréé cette année une formation sur les sources de l'histoire parisienne, qui est pour l'instant uniquement interne au service de la ville de Paris, qui est organisée avec les archives de Paris, avec la bibliothèque Fornet, avec la bibliothèque de l'hôtel de ville et avec le service d'archéologie de la ville, afin de partager entre professionnels les connaissances des différentes sources qui sont offertes dans les institutions patrimoniales parisiennes. Et puis ça nous permet aussi de parler des sources qui sont en dehors des institutions parisiennes, puisqu'il y a beaucoup de collections, notamment aux Archives nationales et à la Bibliothèque nationale, du fait des confiscations intervenues à la Révolution française. Il y a beaucoup de choses qui sont parties dans ces institutions nationales. La question pourrait se poser de savoir si il serait intéressant de recréer une forme de cours ou d'enseignement de l'histoire parisienne qui pourrait être ouverte au grand public. Bon, ce ne serait pas forcément évident. Après, il y a la question des expositions, qui sont aussi un moyen de diffusion de la connaissance. Malheureusement, la bibliothèque historique n'a plus de galerie d'exposition. Elle a bénéficié d'une salle d'exposition rue Malher de 1991 à 2016, mais la ville a décidé de la fermer en 2016. Les locaux ont été attribués à une association. Donc on est aujourd'hui un peu sans cet outil qui était bien utile et qui a permis à la bibliothèque de faire des dizaines et des dizaines d'expositions qui marchaient très très bien. Alors actuellement, bon, on ne peut proposer que quelques vitrines à la bibliothèque même. Donc on essaie plutôt de proposer des expositions en dehors de la bibliothèque. C'est pas la même chose évidemment. Là, je vous ai mis en haut à droite une image d'une exposition de photographies à partir de nos archives de France Soir sur la libération de Paris. C'est une exposition qu'on a proposée en collaboration avec le Festival de photos de Vincennes l'été dernier à Vincennes. Donc là, on était dans le bois de Vincennes, donc dans Paris. Mais c'était en lien avec le Festival photo de Vincennes. Donc ça permet de faire découvrir les collections à des Parisiens et puis à des non-Parisiens également. C'est quand même assez intéressant. En ce moment, on a aussi une exposition qu'Anatole France, donc à côté du musée d'Orsay. C'est une exposition qui est consacrée à un fonds photo constitué en 1970. Il y a eu un concours photo organisé par la ville de Paris avec la FNAC et tous les quartiers parisiens ont été photographiés au printemps 1970. Donc on a collecté plusieurs dizaines de milliers de photographies. Donc là on présente un certain nombre de photos qui montrent ce moment assez charnière de l'évolution du paysage urbain parisien entre là aussi la destruction de certains quartiers et puis l'arrivée d'un urbanisme beaucoup plus contemporain, qui est évidemment présent davantage dans les arrondissements périphériques, mais qui est aussi présent dans des arrondissements plus centraux, quoique de manière plus modeste. Et donc on voit souvent à la fois des immeubles décrépits et puis des tours qui commencent à se construire. C'est l'époque où le périphérique va sortir de terre, c'est l'époque où la tour Montparnasse se construit, c'est une époque de grands changements dans l'univers parisien. Donc cette exposition évoque cet aspect des choses. Donc c'est sur les quais, en contrebas du musée d'Orsay, et c'est accessible assez facilement. En plein air, tout à fait, en plein air. Alors ce sont des reproductions, évidemment, qui sont faites, mais ce sont des reproductions grand format. Donc on a numérisé une partie importante du fond, puisque sur ce fonds qui fait à peu près 100 000 photographies, il y en a 30 000 qui ont été actuellement numérisées, qui vous permettent de voyager dans tous les arrondissements parisiens. Vous allez sur le portail des bibliothèques spécialisées parisiennes, ça s'appelle C'était Paris en 1970, on accède à ces images qui permettent de voir la physionomie de beaucoup de rues parisiennes il y a 55 ans maintenant. Voilà, donc c'est un petit parfum de nostalgie. Voilà donc les différents outils. Alors la question de l'enseignement aujourd'hui se pose de manière différente de ce qu'elle était il y a un siècle, puisque une remarque qui est souvent faite aussi bien par les équipes que par les enseignants est la difficulté des enfants à accepter un enseignement didactique et le souhait d'avoir des approches plus modernes qui mêlent le jeu à l'enseignement. Donc c'est pour nous un peu un défi d'arriver à essayer de constituer des formes de présentation de nos collections qui ne soient pas jugées trop pédagogiques, trop rébarbatives, tout en gardant un contenu intéressant. Une discussion, un questionnement permanent dans les équipes avec des sensibilités différentes selon les professionnels et des efforts, des tentatives qui sont différentes. Donc actuellement, on mélange à la fois des ateliers qui se veulent résolument ludiques et participatifs à des ateliers qui sont peut-être un peu plus formels, davantage construits. En tout cas, on espère que c'est dans le mélange de ces différentes formes qu'on va permettre de satisfaire différents besoins et de transmettre les connaissances, les collections qui nous ont été léguées, que nous conservons et qui permettront de poursuivre cet effort de diffusion et de partage d'un patrimoine parisien qui s'est constitué au fil des siècles et qui est encore en cours de constitution, d'enrichissement, qui est précieux pour nous. Je terminerai en disant que c'est toujours une sorte de work in progress et de questionnement permanent, parce que c'est jamais évident d'arriver à trouver les bonnes formules. J'avais une formule assez ancienne qui m'avait frappé en préparant la conférence, une formule d'un historien du début de la Troisième République, qui disait que finalement, la bibliothèque, on considérait que c'était une institution pérenne, une institution solidement installée, qu'elle allait d'évidence, que le déploiement de ses missions allait de soi, mais qu'en fait, c'était un questionnement permanent qui dépendait de l'initiative de ses personnels et du goût du public, et qu'il fallait en permanence se remettre en question, parce que même si l'institution pouvait paraître très solide à un moment donné, elle ne l'était jamais autant qu'elle paraissait l'être, et qu'il fallait toujours essayer de la réinventer, de maintenir des formes de modernisation si on ne voulait pas se retrouver en difficulté. Et je pense que c'est vraiment une situation qui se présente à nous, même si aujourd'hui on a une institution qui est bien dotée par la ville, qui fonctionne bien, qui reçoit beaucoup de public. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers en quelque sorte, mais toujours essayer d'imaginer des formes différentes qui soient à la fois innovantes et puis respectueuses du passé. Donc c'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver, mais qui peut être, qui est forcément assez difficile, mais assez stimulant. Voilà, ce sera mon mot de conclusion, et si vous avez des questions, j'y répondrai très, très volontiers.
Merci. Merci.